Vous êtes sur RTL.
Place RTL Soir, avec vous Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Je suis ravie de vous accompagner en ce début de soirée, en ce début de week-end prolongé, d'ores et déjà placé sous le signe du sport, avec plusieurs événements que vous allez peut-être suivre, les doigts de pied en éventail, le Grand Prix de Monaco d'abord, le Français Pierre Gasly est l'invité de RTL Soir, il nous dira ses ambitions et ses regrets aussi sur l'élitisme financier de la Formule 1. Rendez-vous à 18h15. Et puis Roland Garros, c'est des Français qui continuent de surprendre. Ce sera d'ailleurs à la une de votre journal, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Surprise créée notamment par Léolia Jean-Jean. Elle avait quitté le haut niveau il y a 10 ans. Elle vient d'éliminer la numéro 8 mondiale. Son portrait à suivre. Dans ce journal également, l'ancien patron du Louvre mis en examen pour blanchiment dans une affaire de trafic d'antiquités. En bord de mer, les sauveteurs exceptionnellement sur le pont pour l'ascension. Et puis le retour de Diams, 12 ans après l'arrêt brutal de sa carrière, l'ancienne star du rap se raconte dans un documentaire présenté ce soir au Festival de Cannes. Les courses en nocturne à Longchamp ce soir. Dominique Cordier vous conseille de miser le 7, le 10, l'As, le 5, le 6, le 8 et le 4.
Jusqu'à 20h également, la brigade RTL dans un quart d'heure auprès des Top Gun français. Une génération de pilotes marquée par Maverick, Iceman, Goose et leurs copains. Reportage sur la base de l'aéronaval à Landivisio. À 18h30, les dessous de l'actu, les dessous des ministères. Comment travaillent ces équipes autour des ministres. À 18h40, on défait le monde. Vos 20 minutes d'actu. Actu autrement avec Cyprien Signy et toute sa bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu ce soir.
On va mélanger mécanique des fluides et embouteillage. Vous allez comprendre comment les maths et la physique sont essentielles pour appréhender le trafic routier. Au menu également, les mesures ultra radicales de l'Espagne pour économiser de l'énergie et José Mourinho au panthéon des entraîneurs de foot.
À tout à l'heure Cyprien. 19h15, on va refaire le monde et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous. Piggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Marion. Bonsoir à tous.
La tendance ?
Plutôt ensoleillée au sud et un peu plus nuageux au nord.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal Marion Calais, Alexandre de Saint-Aignan. Roland Garros 2022. Sur RTL.
Et quel parcours ! Il n'y a pas si longtemps, elle était encore au RSA et désormais, c'est l'un des espoirs du tennis français porte d'Auteuil.
Ah oui, pourtant, Léolia Jean-Jean n'est pas si jeune. Elle a 26 ans. C'est son premier Roland-Garros. Cette inconnue enchaîne les victoires, la dernière en date, face à la numéro 8 mondiale cet après-midi. Bonsoir Sébastien Rouxel.
Bonsoir Alexandre, bonsoir.
Alors,
Marion.
On ne la connaît pas, hein, Léolia Jean-Jean. Ce qui est sûr, c'est qu'elle revient de très loin.
On l'a présenté à 12 ans comme la Mozart du tennis, mais une grave blessure 2 ans plus tard a stoppé net son envol, éloigné des cours, lâché du jour au lendemain par ses sponsors, par la fédération. Cet enfant prodige au destin brisé s'envole alors aux États-Unis pour se consacrer à ses études. Grandie par son parcours cabossé, bardé de diplômes, elle se lance un défi fou fin 2020, tenter sa chance sur le circuit professionnel à 24 ans.
J'ai eu des périodes vraiment pas évidentes où je pensais même jamais rejouer au tennis, c'était très dur, donc... On va dire avec le temps, j'ai appris à passer au-dessus et à me servir de ça comme une force, on va dire, pour revenir. Là où je suis contente, c'est surtout de montrer aux gens que ils avaient bien fait de miser sur moi en fait quand j'étais jeune et qu'ils avaient raison.
Car sur le court et même face à l'ancienne numéro 1 mondiale, elle ne semble jamais stressée par l'enjeu. Je suis là où j'ai toujours rêvé d'être, dit-elle. J'ai l'impression de rattraper le temps perdu.
Et on aura plaisir à la suivre, hein, Léolia Jean-Jean à Roland-Garros, où l'on retrouve aussi Isabelle Langer. Bonsoir.
Bonsoir Marion.
Avec un Français hein, sur le court en ce moment, Gilles Simon, plutôt en forme apparemment.
37 ans, il a les jambes. Hein. Il avait fini à 1h30 du matin avant-hier. 7-5, 3-0 pour Gilles Simon face à l'Américain Steve Johnson. Je vous rappelle la qualification d'Hugo Gaston. Pareil, il a mis 3 petits sets pour se débarrasser de son adversaire aujourd'hui. Il s'est qualifié pour les 16e de finale. En revanche, c'est terminé pour Caroline Garcia. Et le match de la soirée, eh bien, ce sera Lise Cornet contre une ancienne vainqueur, Yelena Ostapenko.
Une jolie journée pour l'heure, pour les Français. On a plaisir à suivre tout ça. Isabelle Langer, Sébastien Rouxel en direct de Roland-Garros pour RTL.
RTL Soir.
18h04 sur RTL et ses soupçons de trafic d'antiquités au Louvre d'Abu Dhabi.
Son ancien directeur Jean-Luc Martinez a été mis en examen pour blanchiment. Il aurait fermé les yeux sur la provenance de certaines œuvres achetées par le musée, notamment une grande stèle de Toutankhamon, Anne Le Hénaff.
Oui, une pierre de granit rose qui promulgue un décret royal du pharaon, achetée par le Louvre en 2016. Mais d'où vient-elle exactement ? En fait, des policiers français enquêtent depuis près de 4 ans sur un vaste trafic qui porterait sur des centaines d'objets et des dizaines de millions d'euros. Trafic qui implique des marchands d'art, des collectionneurs, des galeristes. Un égyptologue est intrigué par un nom qui ressort dans la fiche d'identité de cette stèle de Toutankhamon. Le nom d'un antiquaire égyptien dans les années 30. Or, ce nom apparaît aussi dans les papiers d'une autre antiquité, un sublime sarcophage doré vendu au Met, le fameux musée de New York, qui après enquête a dû le rendre à l'Égypte, car ce sarcophage avait été en fait volé en 2011 pendant la révolution égyptienne. Alors Jean-Luc Martinez a-t-il fermé les yeux ? Il conteste son implication, fait savoir ses avocats. Il connaît bien le sujet. Depuis qu'il a quitté la direction du Louvre l'an dernier, il est chargé de lutter contre le trafic d'œuvres d'art internationales.
Anne Le Hénaff du service police-justice de RTL. Après le scandale des pizzas contaminées à la bactérie E. coli, 7 nouvelles plaintes vont être déposées demain contre Butoni. C'est une information RTL, on y reviendra dans le journal de 19h.
Aux États-Unis, deux jours après le massacre de 19 enfants au Texas, le grand-père du tireur se dit lui aussi sous le choc.
C'est son petit-fils, âgé de 18 ans, qui a ouvert le feu sur les jeunes élèves et les enseignants de cette école élémentaire d'Uvalde. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir à
vous
tous.
Vous êtes sur place pour RTL au Texas. Le grand-père a présenté ses excuses pour les actes de son petit-fils.
Oui, c'est un témoignage important, hein, recueilli par les médias américains, celui d'un homme foudroyé par l'acte de son petit-fils. Il n'était pas là quand ce dernier a d'abord tiré sur sa propre grand-mère. Le tueur, Salvador Ramos, habitait avec ses grands-parents. Il a d'ailleurs utilisé cette adresse lorsqu'il a acheté ses armes. Son grand-père dit qu'il ne savait pas, mais il tient à s'excuser au nom de sa famille.
Je suis vraiment désolé. Je souffre vraiment car beaucoup de ces enfants sont des petits-enfants d'amis à moi. Je suis désolé, désolé pour les familles. Ce sont des enfants, des êtres vivants si innocents.
Les excuses du grand-père du tireur donc que l'on vient d'entendre. Alors concernant l'enquête, elle se poursuit avec des questions, hein, Lionel, sur l'intervention des forces de l'ordre.
Oui, des questions qui hantent les parents, notamment sur les délais de cette intervention. Le tueur serait resté dans l'école entre 40 minutes et une heure avant qu'il ne soit abattu. Pendant l'assaut, des parents auraient supplié les forces de l'ordre d'entrer dans le bâtiment ou au moins de les laisser eux-mêmes entrer. Et puis on avait dit dans un premier temps qu'un policier avait tiré sur l'assaillant à son arrivée, mais les enquêteurs ne sont plus certains de cette information. Du flou, donc les parents, eux, veulent logiquement des réponses et rapidement.
L'envoyé spécial de RTL au Texas, Lionel Gendron.
Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL Soir avec la mobilisation parfois un peu anticipée des sauveteurs sur les plages après plusieurs cas de noyades ces dernières semaines. A tout de suite.
RTL Soir avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais.
Et en ce long week-end de l'Ascension, vous êtes nombreux à vous offrir quelques jours de congé, de repos. Attention tout de même à la baignade alors que toutes les plages ne sont pas encore surveillées.
Les maîtres nageurs sont d'ordinaire mobilisés à partir de la mi-juin, mais certains sont déjà sur le pont dans le Finistère, Nicolas Bobby.
Pierre, 18 ans, termine sa formation de nageur sauveteur SNSM sur la plage de Fouesnant.
On a appris tout le secourisme, les techniques pour sortir les personnes de l'eau, les secourir.
Les sauveteurs en mer simulent des situations comme cette récupération de victimes.
Madame, serrez-moi les mains si vous m'entendez.
Ouais, c'est bon.
Qu'est-ce qui vous est arrivé alors ?
J'étais en train de nager, j'ai eu une crampe, c'était pas facile là.
Vous allez pouvoir vous remettre debout ou pas ?
Oui.
Actuellement, peu de plages sont surveillées. Erwan Salin du CFI, le centre de formation et d'intervention Quimper-Cornouailles, recommande de se renseigner sur les courants.
Il y a souvent des panneaux d'information à l'entrée des plages. Pour les enfants en bas âge, que les parents restent près d'eux au bord de l'eau. C'est souvent les enfants qui se noient parce qu'ils savent pas nager.
Elisa a déjà sauvé des vies.
S'il y a des vagues assez fortes, ça m'est déjà arrivé d'aller aider une personne qui s'est fait prendre dans les vagues, une personne âgée, et pouvoir assurer de la sécurité, c'est assez valorisant.
Se mouiller la nuque et les épaules avant de plonger peut éviter un drame.
Nicolas Bobby pour RTL.
C'est le genre de choses qui risque de gâcher ces quelques jours de repos, ou presque. En tout cas, toute la France est en alerte rouge aux graminées.
Le nez qui coule, les yeux qui grattent, c'est le cauchemar des allergiques au pollen. Et si c'est votre cas, écoutez bien les conseils de Frédéric Deblay, président de la Fédération française d'allergologie.
Il ne faut pas ouvrir les fenêtres, il faut utiliser le système de ventilation dans la voiture, mais il ne faut pas oublier de changer des filtres anti-pollen qui soient efficaces. Il ne faut pas du tout se priver de balade. Il faut avoir une vie normale, mais il faut savoir se traiter avant. Quand, par exemple, le matin, on a décidé d'aller se promener pendant une journée, il faut prendre un antihistaminique, même si on n'a aucun symptôme, et se mettre des gouttes dans les yeux et des corticoïdes dans le nez. Moins il y a d'inflammation au niveau du nez ou des yeux ou des bronches, plus vous avez de chances que vos médicaments soient efficaces. Et si on sait qu'on a déjà fait de l'asthme pendant la saison des pollens de graminées, prendre un médicament dans sa poche, à ce qu'on appelle un bronchodilatateur d'action courte, qu'on ne se retrouve pas avoir une crise d'asthme en pleine forêt.
Des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL.
Ça fait plus de 10 ans qu'elle a disparu sans donner aucune nouvelle ou presque. L'ancienne star du rap, Diam, sous les projecteurs du Festival de Cannes.
Vivez le 75e Festival de Cannes sur RTL.
C'est l'événement de cette fin de quinzaine sur la croisette. Film documentaire réalisé par Diam. Il s'appelle Salam. Il est présenté ce soir. Michael Lefebvre, vous allez assister à la projection. Vous avez déjà pu regarder des tout premiers extraits.
Oui, hein, pour la première fois face caméra, Diam se confie sur la gloire, 1 200 000 disques vendus en 3 albums et la détresse psychique qui en a découlé. Sa rédemption, elle dit l'avoir trouvée à travers sa conversion à l'islam, un sujet qui avait fait polémique mais dont elle a très peu parlé au final. Dans la bande-annonce de ce film documentaire, on entend en tout cas la chanteuse exprimer avec des mots forts son mal-être face au triomphe.
La salle était pleine mais pourtant pour moi tout était vide. Vide comme cette vie que je menais. Vide de sens, entouré de gens avides, de fric, de filles, de débats stupides. J'étais vide, mais je faisais semblant. Semblant d'être bien. Mais je perdais la tête de plus en plus. Je prenais des cachets de plus en plus. Je me faisais du mal de plus en plus. Et puis je pensais à la mort de plus en plus. Mais je disais rien. Je continuais à faire semblant.
Voilà, on reconnaît bien là, hein, le style et le phrasé de Diam. Elle était attendue, hein, sur la croisette, mais finalement elle ne viendra pas, laissant les deux co-réalisatrices, Ouda Benyamina et Anne Cissé, présenter donc ce film très attendu en avant-première ce soir.
Michael Lefebvre à Cannes pour RTL. Au Royaume-Uni, l'acteur américain Kevin Spacey vient d'être inculpé de 4 agressions sexuelles à une période où il était directeur artistique d'un théâtre de Londres. Il avait déjà été poursuivi pour des faits similaires aux États-Unis, des poursuites qui avaient été abandonnées il y a 3 ans.
Enfin du foot ce soir avec une affiche qui rappelle de bons souvenirs, hein, aux passionnés du ballon rond.
Auxerre, Saint-Etienne qui s'affrontent pour une place en Ligue 1.
Petite
match de barrage.
Petite terre de nostalgie.
Allez, ça c'est sûr, alors que les supporters stéphanois sont interdits de déplacement. La rencontre se joue à guichet fermé ce soir et l'ambiance est déjà chaude à Auxerre. Didier, Michel, 2 supporters de la GIA.
On a toujours suivi Auxerre depuis la première division, deuxième division et on reviendra en première division cette année, largement.
C'est quand même Saint-Etienne, une équipe emblématique.
On le sait, on respecte Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est une grande équipe européenne aussi, comme Auxerre, mais on supporte Auxerre. Voilà. Mais bravo à Saint-Etienne, on espère... On espère les battre.
C'est le match aller, ça va conditionner le match retour. Faut pas qu'on les respecte de trop. On y croit, il y a une ferveur incroyable. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas connu ça.
C'est l'ambiance des grands soirs là.
Ouais, je crois qu'on a même jamais connu ça au Auxerre. Hein. Moi je suis supporter depuis 25 ans à peu près. Même lors des grandes soirées de Coupe d'Europe, accueillir le bus comme ça, fumigène, une ambiance incroyable. Jamais on a connu ça au Auxerre. Et on espère pouvoir monter.
Voilà, des supporters qui croisent les doigts, des supporters auxerrois, à propos recueillis par Morad Jabari pour RTL, qui sera en direct, hein, Morad, dans le journal de 19h pour suivre en direct donc ce coup d'envoi de ce match entre Auxerre et Saint-Etienne.
Bon, il va faire beau ce soir pour ce match, Peggy, ou pas?
Ce soir, ça va. Ce soir, on a juste quelques nuages, un ciel variable, ouais. On va dire, donc ça va.
Ouais.
Maintenant,
Demain. Je vous sens pas confiante.
Si, mais il y a toujours un mais en fait. C'est pas du grand soleil. En fait, demain sur le nord du pays, au nord de la Loire, on aura un temps bien couvert avec quelques faibles pluies, surtout entre la Normandie et les Ardennes. Voilà pour demain matin. Au sud de la Loire, là par contre, les éclaircies seront déjà là, sauf sur les Pyrénées où ce sera encore bien gris. Ensuite, cette bande nuageuse, elle va glisser dans l'après-midi. On va la retrouver entre le sud de la Bretagne, la Vendée, en allant vers le centre et l'Alsace, avec quelques trouées possibles. Et de part et d'autre, par contre, le soleil va s'imposer. proposer. Là, il sera bien généreux et on a toujours une évolution orageuse possible sur les Alpes du Sud, sans oublier un peu de vent, un peu de tramontane et de mistral. Côté température, les minimales, elles seront quasi stationnaires, globalement comprises entre 9 et 14 degrés, et les maximales de 16 à Cherbourg à 33 à Marseille.
16 à Cherbourg, c'est pas facile à dire.
16 à Cherbourg, voilà. Ça grimpe au sud, 32 à Montpellier, 30 à Ajaccio, 28 à Grenoble, 24 à Limoges et Besançon, 22 à Paris et 19 à Lille.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
La brigade RTL Soir.
Et dans la brigade RTL, les Top Gun français. On partage leur quotidien depuis ce matin sur la base de Landivisio dans le Finistère, au lendemain de la sortie des nouvelles aventures de Maverick, incarné par Tom Cruise dans ce second Top Gun. Bonsoir Théo Gauthier de Lombugard.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
C'est vous qui vous êtes rendu sur cette base de l'aéronaval pour RTL. Et vous l'avez constaté, hein, ce film a vraiment contribué à la naissance d'une génération de pilotes.
Dans le bâtiment de la flottille 17F, les pilotes de chasse nous racontent leur fascination pour Top Gun.
Ce film, il est mythique pour des générations entières de pilotes. Toutes les phrases dedans sont mythiques, on les connaît tous par cœur.
Maverick, ça c'est pas une bonne idée. Tu m'excuseras, Ghost, mais je vais lui friser les moustaches à la tour.
Je vais lui friser les moustaches à la tour.
Le lieutenant de vaisseau Cyril est aux commandes d'un Rafale depuis 2 ans et demi.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans le premier film, en fait, c'est les émotions des pilotes, leur entraînement au quotidien, et ça, je pense, c'est extrêmement réaliste.
Leur quotidien ressemblerait presque à celui de Tom Cruise, alias Maverick. Chaque matin, à 8h précises, le lieutenant de vaisseau Olivier arrive sur la base de Landivisio, ce fils de marin, et ses camarades débutent la journée par une intense séance de sport, puis le programme se déroule, il faut se préparer pour un vol d'entraînement.
On va commencer à regarder un petit peu la météo, le contexte un peu environnemental. Ensuite, on va regarder vraiment le programme du vol. Ce qu'il faut voir, c'est que tout est très cadré.
Le pilote de 30 ans assiste ensuite au briefing. Certains se préparent mentalement, imaginent et répètent les actions qu'ils vont effectuer en l'air. Puis direction la salle d'équipement.
Ça fait un peu du bruit, il y a une ventilation. Et c'est pour faire sécher les effets de vol, parce que pour pas mal transpirer, perdre un petit peu d'eau. La combinaison étanche, pantalon en tigé. Puis après, en haut, j'ai un gilet de combat qui est assez lourd. Voilà, et tout ce qui me reste à récupérer, c'est mon casque. Alors là, on est sur le tarmac.
Le lieutenant de vaisseau Olivier, dans sa combinaison kaki, marche jusqu'à son avion, le casque sous le bras. Il embarque, se positionne en bout de piste, en lien avec la tour de contrôle. Puis il décolle. Pour un entraînement d'un peu moins d'une heure.
Alors, il faut dire que dans les airs, hein, Gauthier, quand ils sont dans le cockpit, les pilotes ont beau être assis, ce qu'ils vivent s'apparente à un vrai défi physique. Hein.
Absolument, il y a d'abord cette cabine ultra exiguë dans laquelle ils peuvent passer parfois 7 à 8 heures en mission. L'inconfort est total et puis il faut supporter la chaleur. Les pilotes suent en permanence et perdent parfois des litres d'eau. Ensuite, le corps subit des accélérations successives.
Le corps est soumis en fait à la force centrifuge, et ce qui fait qu'on va peser 7, 8, 9 fois son poids. Donc en fait, on se sent vraiment écrasé dans le siège. Et en plus de ça, on a toute la masse sanguine en fait qui va quitter la région du cerveau pour descendre vers les jambes. Si on ne fait pas attention ou si on ne fait pas les bonnes manœuvres, et ben on peut perdre connaissance au bout d'un moment.
Et donc réussir à avoir cette capacité à comprendre ce qui se passe autour de nous, avec les alarmes, avec la radio, avec le radar, ça nécessite d'être surtout en très bonne forme, et c'est très exigeant.
Ces militaires d'élite, à l'image des sportifs de haut niveau, doivent donc prendre soin de leur corps et avoir une hygiène de vie irréprochable.
Ah oui, mais la force physique, ça fait quand même pas tout, hein, Gauthier.
Absolument, la sélection qui débute désormais directement après le bac est rude. Outre les aptitudes médicales, avoir une bonne vue par exemple, le concours est ultra sélectif. La formation très exigeante dure 5 ans, les pilotes ne s'arrêtent jamais, ils sont sans cesse en train de bûcher pour se maintenir à niveau.
La chance du Rafale, c'est que c'est un avion qui est totalement polyvalent, mais c'est également du coup une source de travail qui est considérable pour être performant aussi bien en mission d'attaque contre un navire ou en mission de protection de troupes au sol. Il y a des documentations qui sont énormes à apprendre tout ça.
Top Gun est une vitrine pour ces pilotes de chasse français, mais leur engagement est loin d'être du cinéma. Ils étaient encore récemment aux frontières de l'Ukraine pour des opérations en Roumanie.
Bah, ça fait tout, hein.
Ah oui,
ça fait tout, cette musique de Top Gun. Berlin, hein, c'est ça le nom du groupe. Brigade RTL signée Gauthier de Lombugard. Et je vous renvoie aussi sur Focus, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel 2 générations de pilotes livrent leur regard sur Top Gun. Focus est à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr. Dans un instant, avant le Grand Prix de Monaco, les confidences sur RTL ce soir de Pierre Gasly, l'un des deux pilotes français du circuit. A tout de suite.
RTL Soir avec Marion Calais. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir.
Et on va prendre à présent la direction de la Côte d'Azur. Il y a ceux qui vont y profiter de la plage en ce week-end de l'Ascension. Pour notre invité, ce sera plus studieux puisqu'il doit participer au 7e Grand Prix de la saison en Formule 1, le Grand Prix de Monaco ce dimanche. Bonsoir Pierre Gasly.
Bonsoir.
Pilote de l'écurie italienne AlphaTauri. Vous êtes l'un des deux pilotes français engagés dans le championnat du monde. Quand on est français et qu'on est à Monaco, on a un peu l'impression d'être à la maison.
Ah bah complètement, c'est sûr que c'est un week-end vraiment particulier. Il y a beaucoup de Français francophones qui sont là pour nous soutenir, pour nous motiver. Et c'est toujours une sensation vraiment particulière.
Et puis il a une saveur particulière aussi, ce Grand Prix, ces virages serrés, ce tracé au cœur de la ville. C'est assez mythique pour un pilote, j'imagine.
De mon point de vue, c'est le circuit le plus excitant de l'année. C'est vrai que c'est un gros challenge de rouler dans les rues de Monaco, surtout aux vitesses à laquelle on va, mais c'est ce qui est excitant, c'est jouer avec la limite entre les murs, surtout sur un circuit en ville où il y a énormément de difficultés. Et en plus, ils annoncent de la pluie pour dimanche, donc ça devrait rajouter encore pas mal d'événements. Donc plein d'opportunités ce week-end et on va essayer d'obtenir un meilleur résultat possible.
Alors vous allez nous parler de vos ambitions sur ce Grand Prix, mais je voudrais qu'on apprenne à vous connaître, Pierre Gasly. Vous, le Normand aujourd'hui âgé de 26 ans, il y a près de 20 ans, vous avez découvert le pilotage avec un kart. Votre grand-mère était elle-même championne régionale de karting. Au départ, en fait, c'est une affaire de famille, le sport auto.
Je vois que vous êtes bien renseigné. ça a toujours... C'était une histoire de famille. J'ai mon grand-père, ma grand-mère qui a été championne de karting, mon père, mais j'ai quatre grands frères, dont trois qui ont fait du kart. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Après, j'ai essayé d'autres sports aussi. Je faisais du hockey sur glace quand j'étais plus petit. J'ai joué pendant longtemps au foot. Mais dès que j'ai essayé le kart, ça a tout de suite été le coup de foudre et j'ai tout de suite su que c'est ce que je voulais faire dans ma vie.
C'est pas rien d'avoir aujourd'hui son baquet en Formule 1. Les places sont chères, 10 écuries, 2 pilotes par écurie. Est-ce que c'est un combat quotidien ou au moins annuel à chaque fin de saison de se maintenir, sachant que certains pilotes arrivent aussi avec dans leur bagage des sponsors, des soutiens financiers? Ça rend la lutte plus acharnée?
C'est sûr que les places sont très chères. Comme vous l'avez dit, on n'a que 20 dans le monde entier, et sachant que les pilotes, on va dire que l'âge varie entre 20 et 40 ans, donc c'est sûr que les places sont très chères. Après, ça dépend des contrats, ça dépend pour combien de temps on a signé, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de pilotes avec des soutiens financiers. Ça fait la différence dans certaines situations, donc c'est toujours un combat.
Mais c'est plus dur aujourd'hui de ne venir de nulle part quand on fait de la Formule 1?
Je pense complètement. Je pense que c'est clairement quelque chose qu'il va falloir essayer de changer ou d'améliorer sur les prochaines années pour les jeunes qui arrivent, parce que c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Sans sponsor ou sans avoir le soutien d'un team de Formule 1 aujourd'hui, je pense que c'est impossible si on vient pas d'une famille avec des moyens. Donc c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler avec la F1, avec la fédération, pour essayer de donner le maximum de chance, parce qu'il y a des petits, des plus jeunes qui sont extrêmement talentueux mais qui malheureusement ont pas la chance d'avoir les opportunités, même si ça reste bien avant les catégories inférieures à la F1. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer.
Donc quand on est pilote, après il faut se montrer, exister sur le circuit. Pour vous, ce début de saison a été assez compliqué. Vous êtes actuellement 13e au classement des pilotes. Qu'est-ce qui pêche selon vous?
On a été assez honnêtement malchanceux. On a pas mal de pépins, donc de temps en temps qui viennent, on va dire, des erreurs de notre côté en tant qu'équipe. Et après, il y a eu des incidents où, malheureusement, en dehors de notre contrôle, comme à Miami, où on était parti pour faire une 7e ou 8e place et je me suis accroché par Alonso. Donc, ça dépend. C'est vrai que pour l'instant, la réussite, elle n'a pas été de notre côté depuis le début d'année. Alors, en termes de performance, on est malheureusement, la voiture cette année, on n'est pas aussi bien que la saison dernière. Donc, c'est plus compliqué. Il y a les autres écuries qui ont vraiment fait du bon travail. Mais les ambitions, elles sont toujours là, la motivation, elle est toujours là, et je continuerai toujours à pousser l'équipe pour obtenir le meilleur résultat possible.
Et ce Grand Prix de Monaco, alors, qui vous excite tant, vous en attendez quoi?
J'en attends, comme j'ai dit, d'avoir un week-end propre du début à la fin, en essayant de se concentrer à vraiment optimiser la voiture et le, le package que l'on a, parce que oui, même si c'est plus compliqué que la saison dernière, il y a quand même moyen de faire des belles choses si on se concentre vraiment à optimiser tout ce qu'on a et à pas faire d'erreurs. Donc ça va être l'objectif principal, et j'espère vraiment pouvoir aller chercher des points et un bon résultat ce dimanche.
À plus long terme, l'objectif, c'est d'espérer décrocher une place dans une des grosses écuries. Vous qui avez été chez Red Bull, y retourner, c'est ce que vous visez?
Oui, c'est sûr que l'objectif, c'est de retourner dans une des écuries de pointe. Comme je l'ai dit, mes ambitions aujourd'hui, c'est d'être champion du monde. C'est la seule raison pour laquelle je me réveille tous les matins, pour laquelle je travaille tous les jours. En Formule 1, on peut pas faire ça sans la voiture qui va avec. Donc aujourd'hui, on est conscient de la situation avec Red Bull, du contrat. Donc il y aura des discussions sur comment approcher l'avenir et s'il est vraie envie de faire les choses ensemble ou s'il faudra regarder d'autres options. Mais en tout cas, la priorité actuelle, c'est clairement Red Bull et discuter avec eux pour voir ce qu'on va faire sur les saisons à venir.
Alors j'avais une autre question, parce que ce week-end, il y a autre chose que l'on suivra, c'est la situation de Lewis Hamilton et de ses bijoux. Normalement, les pilotes ne sont pas censés porter de bijoux au volant, et la Fédération Internationale a fait savoir qu'elle allait sévir dès ce week-end. Est-ce que vous comprendriez que Lewis Hamilton soit sanctionné pour une histoire de bijoux?
Personnellement, je trouverais ça dommage. Après, voilà, il y a des règles qui sont mises en place. Toute règle doit être respectée, qu'on soit d'accord ou pas avec le règlement. Mais clairement, je pense qu'il y a des problèmes plus importants à régler aujourd'hui en Formule 1. Et ça, c'est des discussions qu'on a actuellement avec la F1 pour essayer de trouver des solutions et des justes milieux en fonction des différents sujets qu'on peut aborder.
Merci Pierre Gasly, pilote de l'écurie italienne AlphaTauri, de nous avoir accordé un peu de votre temps avant ce Grand Prix de Monaco. Bonne chance à vous donc pour ce week-end et ce Grand Prix dimanche, et même pour demain d'ailleurs pour les essais libres.
Merci beaucoup.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, dans un instant, les dessous de l'actu, les dessous du fonctionnement des ministères, un peu moins d'une semaine après la nomination du gouvernement. Et puis, laissez-vous tenter dernière, un rendez-vous doudingue au théâtre ce soir. À tout de suite.
Marion Calais,
RTL Soir.
18h31.
RTL Soir, Marion Calais.
Et on vous retrouve, Alexandre de Saint-Aignan, pour faire le tour des grands titres de l'actualité ce soir.
Cette nouvelle plainte déposée demain contre Buitoni, information RTL, dans l'affaire des pizzas surgelées contaminées à la bactérie E. coli. 200 vols annulés par EasyJet cet après-midi au départ de l'Europe et notamment Paris. La compagnie low cost évoque des problèmes informatiques. Kevin Spacey à nouveau dans le collimateur de la justice, cette fois au Royaume-Uni. L'acteur américain vient d'être inculpé d'agression sexuelle contre 3 hommes. Et puis en direct de Roland-Garros, le tennis, Sébastien Rouxel avec un Gilles Simon en grande forme.
À écouter Alexandre, on a l'impression qu'il retrouve une seconde jeunesse, notre Gilles Simon. Porté par le public du cours central, il domine de la tête et des épaules son adversaire du jour, l'américain Steve Johnson. Il a remporté les deux premières manches 7-5, 6-1. Il y a un partout dans ce troisième set et le français est même en train de s'offrir une possibilité de breaker son adversaire dès le début de cette troisième manche. S'il s'impose ce soir, ce sera, rendez-vous compte, sa 500e victoire sur le circuit.
Allez, du foot également ce soir dans une demi-heure, coup d'envoi du match de barrage aller entre Auxerre et Saint-Etienne, en jeu une place en Ligue 1.
Merci Alexandre, on sera tout à l'heure d'ailleurs suivra ce match dans le journal de 19h. Merci Alexandre et bonne soirée à vous.
Soirée.
Du côté du ciel, Peggy Broche, demain ce sera nuageux le matin au nord,
nuageux
pluvieux
au nord.
Même.
Exactement, avec quelques gouttes, quelques faibles pluies possibles, c'est vrai au nord de la Loire, ça c'est possible demain matin, nuageux également sur les Pyrénées, mais il y aura déjà des éclaircies ailleurs. Dans l'après-midi, la bande nuageuse va glisser entre le Sud-Bretagne, la Vendée en allant vers l'Alsace, et de part et d'autre, plus au nord et plus au sud, on aura un beau soleil qui va s'imposer avec un risque d'averses orageuses. Sur le relief des Alpes, les températures, elles seront en hausse surtout dans le sud, au nord de 19 à 24 degrés, au sud de 26 à 33 degrés.
Merci. Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu vous emmènent ce soir dans les coulisses des ministères. Vendredi dernier, un nouveau gouvernement était nommé. Aujourd'hui, chaque ministre vient d'apprendre avec combien de personnes il va pouvoir travailler au sein de son cabinet. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Du service politique de RTL. D'abord, c'est quoi ces cabinets ministériels?
Alors on va prendre les choses depuis le début. Bravo Marion, vous venez d'entrer au gouvernement.
Où les ennuis commencent.
Mais quand vous débarquez dans votre ministère, agriculture, santé, éducation, peu importe, vous entrez dans d'énormes machines administratives avec des gens qui vous regardent un peu du coin de l'œil. Genre, salut Coco, t'es sympa, mais des ministres, j'en ai vu d'autres avant toi et j'en verrai d'autres après toi.
Okay.
Et bien dans ce monde de brut, le cabinet, c'est la petite équipe qui va vous entourer, qui va entourer le ministre. La seule sur laquelle vous aurez vraiment la main pour le recrutement. Vous allez pouvoir nommer les gens en qui vous avez vraiment confiance. Un peu comme dans un entraîneur de foot qui arrive dans un nouveau club, mais qui va débarquer avec son adjoint, avec son préparateur physique, etc. etc. Un cabinet, c'est 15 personnes pour un ministre, 13 pour un ministre délégué et 8 pour un secrétaire d'État. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait voulu serrer la vis, couper dans les effectifs, mais les rythmes n'étaient pas tenables et le président est revenu en arrière.
Mais alors, on trouve qui dans cette équipe qui entoure le ministre?
Alors, votre gars sûr, votre capitaine, c'est le directeur de cabinet, le DIRCAB, profil haut fonctionnaire en général, qui gère toute la petite équipe et avec qui vous allez tracer la feuille de route de votre ministère. Votre action, c'est lui aussi le DIRCAB qui va se charger d'une bonne partie des interactions avec Matignon, avec l'Élysée ou avec les autres ministères. Ensuite, vous avez le chef de cabinet. Chef cab, c'est la logistique, les déplacements, c'est l'agenda, c'est la gestion du quotidien et les imprévus. C'est quelqu'un qui doit être très dévoué et qui est vraiment indispensable pour le ministre.
On peut appeler 24 heures sur 24, quoi.
Oui. Okay. C'est une autre manière de le dire. Très dévoué. Très, très dévoué. Puis vous avez le conseiller spécial. Là, c'est un peu un électron libre qui peut être là pour imaginer des idées, pour écrire des discours, pourquoi pas. Les conseillers techniques spécialisés sur un domaine précis de votre champ ministériel. Marion, si vous êtes ministre des Affaires étrangères, par exemple, vous allez nommer un conseiller Afrique ou un conseiller Asie pour vous accompagner.
Laissez-moi un peu de temps, je vais choisir.
Vous pouvez aussi nommer un conseiller parlementaire pour assurer le dialogue avec les députés et les sénateurs si jamais il faut lever certains malentendus quand vous portez des textes de loi. Et puis n'oubliez pas le conseiller presse et communication. C'est lui qui va essayer de faire le tampon entre vous et les journalistes. C'est lui aussi qui va vendre son ministre dans les médias et qui sera là pour gérer les coups durs quand il y en a.
Bon, et une semaine après l'annonce de ce nouveau gouvernement, on en est où? Les cabinets, ça y est, sont constitués?
Non, très loin de là, ça prend du temps. Là aussi, il y a une sorte de petit mercato. En général, les ministres reconduits veulent prolonger leurs équipes. Les nouveaux essayent de trouver du monde. Mais les bons conseillers, c'est comme les coins à champignons. On aime bien les garder pour soi. Par exemple, sachez que Damien Abad n'a toujours pas de conseiller en charge de sa communication en temps de crise. Ça pourrait, pourquoi pas, l'aider. Pour le reste, eh bien, comme n'importe quel salarié qui trouve un boulot, il faut s'installer, il faut prendre ses marques, il faut appeler le service informatique parce que ça ne marche pas bien.
Je voudrais qu'on me fasse un mail.
Les joies des premiers pas sont aussi valables pour un gouvernement tout juste nommé.
Les dessous de l'actu, les dessous des cabinets ministériels avec William Galibert du service politique de RTL. Merci.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h36.
Laissez-vous tenter, dernière.
Avec vous, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Alors on va profiter de ce week-end prolongé pour aller au théâtre, précisément au Petit Saint-Martin à Paris pour un spectacle dont vous m'avez dit avant l'émission que c'était une folie, une dinguerie, carrément.
Oui, oui, et j'assume, comme mon mieux, vous résumez Fred Blin et son seul en scène intitulé « A-t-on toujours raison ?» Which are you? Quand parlons de folie et de dinguerie. Un spectacle qui mêle le clown, le cirque, le théâtre, quelques illusions, pas mal de promesses et même quelques notions de dressage. Franchement, une dinguerie, je vous dis.
Qu'est-ce que vous allez avoir ce soir? C'est une question. Vous allez voir, il y aura du quick change, il y aura des illusions, des longueurs. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez assister à un spectacle de théâtre. Attention, parce que j'ai déjà eu des problèmes, d'accord? Non, mesdames et messieurs, ce soir, vous allez assister à un spectacle de théâtre. Donc, on pourra pas se parler pendant la pièce.
Et Et là, vous n'avez que le son. Vous n'avez pas le costume, les sabots, la perruque longue et brune, le rouge à lèvres étalé qui déborde partout, le ballon de rugby qu'il envoie dans le public et les pas de danse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Fred Blin fait rire le public. On est presque en transe à ce niveau-là. Il nous fait pleurer de rire alors même qu'il ne sait pas bien ce qu'il fait là et que de fait, bah, nous non plus. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce spectacle génial et déjanté. C'est impossible à raconter, c'est décousu et à la fois tellement bien construit. Un clown moderne et fou vous attend au petit théâtre de la Porte Saint-Martin. Allez voir Fred Blin, laissez-vous attraper et contaminer par sa folie. Vous ne le regretterez pas. Ah non, vous ne le regretterez pas.
Bon, bah, très bien. Bah, votre emballement, je crois, est communicatif. Hein. Merci pour ce conseil un peu dingue. Donc, merci Julia Molcou au théâtre de la Porte Saint-Martin. Fred Blin, à demain.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Une petite pause et ensuite on va défaire le monde dans cette RTL soir. Ils sont déjà installés en studio. Nerissa Emani, Laurent Tessier, Cyprien Sini, bonsoir.
Bonsoir Marion.
Ils font déjà du bruit, ils sont bien là. À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.